Attention, les voilà.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Grandes idées n'ont pas en vain combattu et les périls contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, nos armes pour notre vie.
Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Micro-ondes, l'émission de la CNT 94, avec Sylvain, Christophe et Eric. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du transport, et notamment le transport routier, le transport de marchandises principalement. C'est bon. Un secteur assez particulier... avec son lot de choses qui peuvent être un petit peu choquantes pour certaines personnes. On va parler principalement dans le métier de ce qui s'appelle la RSE.
Alors, c'est Christophe, je ne sais pas si on nous entend. Du coup, la RSE, c'est un langage qui doit étonner tout le monde. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est Réglementation Sociale Européenne. Alors, à la base, ça a été créé officiellement dans le but de permettre aux chauffeurs routiers de dormir plus qu'une heure ou deux par tranche de 24 heures. Et en fait, ça a été aussi créé dans le but d'éliminer, comme ils disent, la concurrence déloyale. Et en vérité, c'est utilisé dans le but de pousser les salariés à faire énormément de bénévolat et... à sacrifier beaucoup de leur temps personnel afin d'être plus, on va dire, compétitif. Alors, donc Christophe, qui est lui aussi plus ou moins dans le transport, toi tu fais du VL, c'est bien ça?
Ouais, alors du coup, ouais, moi je suis pas forcément, je suis un peu presque un néophyte, hein, même si on a déjà parlé ensemble. Si je comprends bien, la RSE, sous prétexte d'harmoniser des pratiques, on se retrouve à tirer les conditions de travail vers le bas ou au contraire?
Oui, complètement vers le bas. Disons qu'il y a deux choses, il y a le code du travail et la RSE. Et en fait, si le code du travail était respecté dans le transport, bon, ça se saurait déjà. Et la RSE, ça aurait été totalement inutile de le créer, puisque le code du travail impose déjà des temps réglementaires de pause, de sommeil, etc. Mais le code du travail, par exemple, n'autorise pas de travailler plus que 12 heures par jour. Mmh. Donc, la RSE permet de travailler 13 heures par jour et de monter même jusque des journées de 15 heures. Bien entendu, à condition d'accepter de faire du bénévolat ou alors d'accepter de perdre son emploi pour celui qui refuse le bénévolat.
Pourquoi tu parles de bénévolat ? Du coup, tout n'est pas payé ?
Ah, mais quasiment tout n'est pas payé. Donc, au niveau de la RSE, en fait, la règle de base, sur une période de 24 heures, on a 13 heures d'amplitude horaire et qu'on ne doit pas dépasser et 11 heures de coupure pour dormir. Mmh. Ça peut être 3 fois par semaine, 15 heures d'amplitude et seulement 9 heures de coupure de nuit. Mais le code du travail en parallèle fixe un délai de travail de 12 heures.
Excuse-moi de te couper, ce que tu appelles coupure, c'est le moment entre tu arrêtes de bosser et ta prochaine prise de
c'est
poste
ça. C'est la pause, c'est parce que okay. C'est la pause de nuit, parce qu'en fait dans le transport on parle de faire une coupure, c'est-à-dire fabriquer sur un appareil du temps de repos qui ne sera pas réellement du temps de repos, ou alors comme on met un ordinateur en veille, on met l'objet, la pièce détachée du camion qui sera au volant, on la met en coupure comme on met un ordinateur en veille, parce que le chauffeur routier n'est pas un être humain, il est bien aux yeux du patron. Comme dans tous les domaines, chaque travailleur, il est bien juste une marchandise, une machine qu'on exploite.
D'accord.
Donc, pour répondre à ta question sur le fait que tout n'était pas payé, comme le code du travail interdit de faire plus que 12 heures par jour, le chauffeur routier qui veut faire ses 15 heures par jour, s'il veut le faire, il lui suffit tout simplement de faire 3 heures de bénévolat dans la journée. Où est-ce qu'il va se déclarer en repos ? Donc en coupure, et là, il lui reste ses 15 heures d'amplitude horaire et ses 12 heures de travail.
D'accord, du coup tu es en train d'essayer de nous expliquer, si j'ai bien compris, que l'amplitude de 15 heures, pour ne pas dépasser les 12 heures, il faudrait qu'il y ait 3 heures de coupure, enfin 3 heures de repos aussi, et qu'en fait c'est pas respecté, il suffit juste de se déclarer en coupure,
oui, c'est ça.
Et des gens continuent
à
travailler, donc du coup bénévolement. Quoi.
En fait on a un appareil qui s'appelle le chronotachygraphe, plus connu sous le nom de mouchard, et qui relève donc la conduite. Dès que les roues tournent du camion, il relève la position conduite. Et ensuite, pour choisir entre la position travail ou la position repos, c'est le chauffeur qui choisit lui-même d'appuyer sur le bouton. Mmh. Donc, quand on est chez un client, même en train d'attendre, on doit se mettre en travail.
Oui, c'est logique.
Et le chauffeur qui est bénévole, lui, se mettra en coupure. Comme ça, il peut travailler gratuitement pour le client. Et en même temps, ne pas être payé, c'est du bénévolat. Et ça lui permet d'aller jusque ses 15 heures d'amplitude.
D'accord. Et du coup, est-ce que je sais pas s'il y a une réponse à ça, ou que, si c'est évident ou pas, mais est-ce que du coup, tu penses qu'il y a beaucoup de patrons qui incitent à ça, ou qui le suggèrent, ou c'est dans des initiatives personnelles, ou peut-être les deux d'ailleurs hein.
C'est un peu des deux, effectivement. Mais c'est quand même 90%, voire 95% des chauffeurs routiers le font régulièrement. Et après, c'est beaucoup des patrons. Certains patrons l'ordonnent même clairement de faire comme ça. Et d'autres patrons le suggèrent seulement. Ou alors se contentent de donner un travail. Ou est-ce que si tu fais pas ça, tu vas pas faire ton travail qui est prévu dans la journée. Donc si tu pars à la semaine, ça se peut que tu restes le week-end bloqué sur la route. Si tu es censé rentrer tous les soirs chez toi, peut-être qu'il y aura un soir où tu rentreras pas chez toi. Donc la prochaine fois, tu te mettras en coupure pour pouvoir rentrer.
Oui, ok, d'accord. Donc en fin de compte, ouais, quand c'est que suggéré ou ça fait partie des usages, celui ou celle qui respecterait pas cette sorte de bénévolat, en fait... pour avoir des sanctions déguisées, des sanctions disciplinaires déguisées, en lui attribuant les moins bonnes tournées, par exemple, ou de faire en sorte qu'il ne puisse pas rentrer à son domicile ou autre, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui sont sur la route toute la semaine.
Oui, voilà.
C'est un peu ça qui se passe, alors.
C'est ça, et puis aussi du travail plus difficile, et puis après, ça peut amener à des cas de harcèlement au travail. D'ailleurs, la plupart du temps, les cas de harcèlement au travail... part du fait qu'un chauffeur routier a refusé de travailler gratuitement. Mmh. Et sinon, si elle part pas de là, elle commence par là, c'est parce qu'un chauffeur routier s'est permis de revendiquer des choses qui étaient légitimes Et derrière ça, on lui a imposé du travail forcé gratuit. Et à ça, il y en a aussi les chaînes de grande distribution, les grosses enseignes de supermarchés, qui, eux, ont fait des contrats et des accords avec les entreprises de transport pour imposer encore plus cette méthode de travailler. Donc, par exemple, la convention collective interdit aux chauffeurs routiers de manipuler lui-même la marchandise à partir d'un certain tonnage ou d'un certain kilomètre parcouru avec la marchandise ou d'un certain nombre de palettes. La grande distribution impose pourtant aux chauffeurs routiers de décharger eux-mêmes leur camion complet. Ça leur évite d'embaucher du personnel.
Ça leur fait un gain de temps aussi, peut-être, non ?
Non, pas spécialement, parce que souvent, quand ces entreprises-là, non seulement le chauffeur se décharge lui-même, mais il n'y a personne pour contrôler la marchandise, et après, le chauffeur routier va se retrouver enfermé dans une pièce pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en attendant le temps du contrôle.
D'accord, ouais, je comprends un peu plus le concept du bénévolat à laquelle tu faisais allusion, parce que en fait, ouais, c'est que le salarié se déclarerait pas en coupure, enfin il se déclare pardon en coupure, mais pour le coup, il la fait pas du tout en faisant le boulot d'une autre entreprise. Mais c'est bon, ça reste des relations commerciales, mais bon, c'est des partenaires en fait. Il y en a aucun des deux qui respecte les droits du salarié, quoi.
La solidarité des travailleurs a été détruite, et en revanche, la solidarité entre les exploiteurs, elle est bien présente, et là, on le voit clairement, quoi. Ça peut aller plus loin chez certaines entreprises, parce que dans certaines entreprises, le chauffeur routier se fait confisquer ses papiers d'identité, et il ne les récupérera que après avoir déchargé. Il se fait aussi confisquer ses effets personnels, son accès à son camion et aux effets personnels à l'intérieur, le téléphone portable.
Et d'accord.
Et certaines entreprises vont encore plus loin en enfermant les chauffeurs dans des cages après qu'ils ont fini le déchargement, ou des cellules ressemblant à des cellules de garde à vue.
Ah. Bon, j'imagine que c'était pas forcément ton intention, mais là tu t'encouragerais pas forcément les gens à aller bosser dans ce milieu-là, quoi.
Ah bah non, c'est aussi pour ça qu'il y a une pénurie de chauffeurs routiers, parce qu'on parle bien de pénurie, vu que le chauffeur n'est pas un humain, il n'est qu'une denrée.
Mmh.
Et actuellement, les organisations patronales dans le transport se plaignent d'avoir du mal à recruter, de ne pas avoir assez de chauffeurs pour faire rouler leurs camions, parce que les gens commencent à se rendre compte de plus en plus des conditions de travail du métier, voilà. Aujourd'hui, les gens ont bien compris que le travail forcé et gratuit, c'est d'une autre époque, voilà quoi. Après, il y a aussi ce phénomène parmi les chauffeurs, c'est que le chauffeur qui fait ça va être félicité régulièrement par son chef, et il va avoir un petit chef qui va lui dire « Ah, toi t'es bien, toi t'es bien », et ça devient un concours entre chauffeurs de celui qui en fera plus qu'un autre. Et du coup, celui qui refuse de travailler gratuitement et en même temps de faire le travail d'un autre, lui passera pour le feignant de service. Contrairement à dans certains autres corps de métier, où est-ce que celui qui casse la cadence, qui essaye d'augmenter la cadence de ses collègues, va passer pour un faillot. Là, c'est les autres qui passeront pour des paresseux. Et les jeunes qui commencent le métier, finissent vite par se mettre à la page aussi, quoi.
D'accord, ouais, en fait, c'est en train de... Enfin, si on fait un parallèle avec le monde du travail en général, c'est ce qu'on peut appeler du zèle, qui est de fait au détriment de l'ensemble des salariés.
Ça serait peut-être un peu plus présent dans le monde du transport, et même quand on arrive avec,
on va dire, de bonnes intentions, on pourrait se faire contaminer. Quand tu parlais des jeunes qui se mettent à peut-être par mimétisme, à faire pareil, une sorte de compétition... qui finalement profite qu'à l'employeur et qui est au détriment des salariés, parce qu'ils sont payés à l'heure, on est bien d'accord.
C'est ça, une sorte de compétition, ou alors même tout simplement les anciens qui vont expliquer aux jeunes « Fais ça, fais-toi en coupure, comme ça ton chef il sera content, et après tu verras, t'auras que du bon boulot, voilà. » Et puis le jeune commence à le faire, et il se rend compte qu'effectivement il a du meilleur boulot, ça va lui faire perdre 500, 600 euros à la fin du mois sur sa fiche de paye, peut-être plus, mais il a du bon boulot, ou alors il va avoir un beau camion, camion tout neuf, et il se contentera de ça. Donc c'est Disons que c'est une mentalité assez particulière et c'est la mentalité actuelle dans le transport qui ne va pas en s'améliorant. Et ensuite, pour ceux qui refusent de faire ça, ils se retrouvent confrontés à un autre problème. Donc ça, c'est moi le problème dans la plupart des entreprises de transport dans lesquelles je travaille. Comme moi, je me mets pas en coupure chez les clients, je fais pas du bénévolat. Bah, c'est qu'après, on peut se faire verbaliser aussi.
Alors,
parce que, par exemple, donc, comme je l'ai dit, tu as les 12 heures de service à pas dépasser et les 15 heures d'amplitude. Mais on se retrouve toujours confronté à des problèmes de stationnement. C'est difficile de stationner une semi-remorque de 16 mètres de long quand on part la semaine et qu'on doit dormir dedans.
Mmh.
Et quand on travaille, mettons, on va conduire 9, 10 heures et on arrive chez un client. Et le client-là nous confisque nos papiers d'identité, nos effets personnels et nous enferme dans une cage. Et là, on va passer 5 heures, 6 heures, 7 heures enfermés dans la cage. Résultat, nos 15 heures d'amplitude sont dépassées.
Mmh.
Mais, et en plus, le client refuse qu'on reste dans l'enceinte de son entreprise et nous oblige à sortir avec le camion. Donc, on va rouler encore un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures quelquefois pour trouver un endroit pour se stationner. Et on se retrouve avec une amplitude horaire de 20 heures au lieu des 15 heures réglementaires qui peuvent coûter 135 euros d'amende, dans le meilleur des cas, voire 1500 euros d'amende, selon le taux de dépassement et aussi la récidive si ça arrive souvent. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est en cas d'accident corporel, forcément, on passe en correctionnel.
D'accord.
Direct, quoi.
Ces amendes-là, c'est... Je sais pas si s'il y a une règle. Enfin, c'est pour l'employeur ou pas?
Non,
pas
elle est au nom du chauffeur.
Ah.
Et les employeurs, officiellement, n'ont plus le droit de payer ces amendes-là au chauffeur,
ouais,
parce que c'est
dénoncer,
considéré,
ouais,
comme une incitation.
Ils doivent dénoncer, d'accord, je comprends le... Je comprends.
Donc les
le
employeurs se déchargent de la responsabilité. Après, effectivement, certains employeurs vont donner une prime correspondant à la somme de l'amende à leur chauffeur, ou certains leur donner même de l'argent en liquide, ou la prendre en charge directement, tout simplement, quoi.
Oui, donc dans ce cas-là, c'est clairement une reconnaissance en fait que c'est l'employeur qui pousse et qui connaît ses conditions de travail. Là, on ne pourra pas accuser salarié d'avoir voulu faire
en
trop revanche, de compétition et du zèle. C'est...
Voilà. Et en revanche, le salarié qui s'est mis en coupure chez le client qui t'enferme pendant 7 heures, bah, il lui suffit juste de rester 2 heures de plus chez le même client, toujours en coupure, et là, il aura une coupure de 9 heures. Ça sera considéré qu'il aura dormi. Et il peut rattaquer sur une journée de 15 heures, même s'il n'a pas dormi, c'est pas grave, puisque l'appareil, lui, a été relevé comme étant en repos.
Mmh. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale? T'en penses quoi?
Oui, pourquoi pas.
Du coup, bah, pour celles et ceux qui veulent nous joindre, réagir à l'émission, vous pouvez appeler pendant les coupures au 01 43.
Dans les tarots, dans les entrailles d'un corbeau, dans l'éclat bleuté du cristal ou dans l'infini des étoiles, dans l'urine d'un escargot, dans les excréments d'un chameau, d'où que ça vienne ou que ce soit, je vois, je prédis, je prévois, je vois, je prédis, je prévois. Votre destin est indiscret, votre avenir est sans secret. J'ai le futur dans le présent, vous êtes le dernier des cons. Vous avez Mercure dans Vénus, pour les Verseaux, c'est du bonus. Pour les Rectos, c'en est tout. Je sais, je dirai tout. Je sais, je dirai tout. Travail, famille, argent, tout est écrit, c'est épatant. Plus besoin de se casser le peigneur, y'a qu'à attendre des jours meilleurs. Si ton horoscope est pourri, tu n'auras qu'à rester au lit. Je viendrai avec des croissants, fais du café, je lirai dedans. Fais du café, je lirai dans Porte Bonheur.
Pas de lapin
ou poudre d'un
perlin pimpin.
Faire un cheval en bois naturel pour gagner les faveurs du ciel. La croix miracle de mes deux qui porte chance aux gens heureux. Et les gris-gris qui servent à rien, j'en ai l'état et ça se vend bien. J'en ai l'état et ça se vend bien. Musique. Je lis l'angoisse de demain au creux des lignes de la main et l'inquiétude qui vous ronge dans ce qui vous reste de songe. Vous n'êtes plus seul dans la vie, je suis le guide et votre ami qui consulte sur rendez-vous. Je suis notable, voyez-vous, je suis notable, un point, c'est tout. Les colonnes des journaux jusqu'aux émissions de radio, je suis l'invité permanent sous protectorat des puissants. D'un bout du monde à l'autre bout, j'ai voix au chapitre partout. Alors je chante de plus belle que la connerie est universelle, que la connerie est universelle.
Eh bien, vous êtes sur l'émission Micro-Ondes, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne, et on vient d'écouter une chanson des chanteurs-livreurs, Horoscope. Et on est en présence d'Éric, un camarade, justement, chauffeur-livreur.
Je ne sais pas si c'est le terme exact.
Chauffeur routier. Tourneur de volant.
Tourneur de volant. Alors... Donc, tout à l'heure, tu parlais des personnes qui refusaient, on va dire, de faire du zèle, qui demandaient juste à ce que leur droit soit respecté, par exemple, qui se mettent en coupure quand il fallait se mettre, et qui ne faisaient pas semblant de ne pas l'être et de bosser bénévolement. En fait, tous celles qui refusaient le bénévolat, et que ça pouvait un peu engendrer, des sanctions déguisées, à savoir des tournées moins intéressantes que les autres, plus fatigantes ou autres. Ça sentait le vécu, je sais pas.
Ah bah oui, complètement, mais en même temps, c'est le vécu de tout chauffeur routier.
De tout chauffeur. Et est-ce qu'il y a un vécu personnel et tu voudrais en parler, hein, t'es pas obligé. Hein.
Oui, bah après, vécu personnel, oui, mais de toute façon, je suis pas le seul. Mais moi, par exemple, ça a été de manipuler le tachygraphe comme la législation l'impose. Ça m'a valu de perdre entre 800 et 1000 euros par mois pendant quelques années sur une entreprise dans laquelle, je me suis mis en lutte syndicale plutôt que de fuir le bateau, voilà. Et ça m'a valu aussi d'avoir du coup que du travail de merde où est-ce que je pouvais plus dormir beaucoup. C'était du 3-4 heures de sommeil par nuit maximum. Parce que au lieu de partir toute la semaine, finir la journée de travail, dormir dans le camion après avoir mangé, prendre la douche chez les clients, la vie habituelle de quand tout se passe bien, quoi. La place, c'était, on me dit, ce soir, tu découches, et puis, changement de programme, hop, tu rentres. Et puis, tu termines ta journée à 20h, et le lendemain matin, tu dois recommencer à 5h du matin. Le temps de préparer tes affaires, etc., et de rentrer à la maison, il te reste 4-5 heures maximum dans le lit.
D'accord, oui, t'as plus le temps, en fait. Il joue un peu sur le suspense, il joue avec tes nerfs. Alors, je me permets de rebondir, parce que t'as dit un truc que t'aurais eu peut-être 800 euros de moins. Et dit comme ça, ça paraît énorme. Et en fait, est-ce que du coup, c'est du salaire? C'est quoi en fait? Parce que
c'est les
frais. On a tendance à dire que ça paye bien, mais je crois que c'est pas si simple que ça.
Non,
je sais pas
ça.
Si
voilà.
Tu peux expliquer.
Alors, c'est les frais de route, c'est-à-dire qu'on est payé parce qu'on découche dans le camion. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu par la convention collective. À la base, les frais de route sont prévus pour payer, pour un chauffeur qui part et qui découche dans le camion, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et la nuit. Donc, les frais de route aujourd'hui sont à peu près de 60 euros pour une nuit, enfin pour une journée avec ces quatre choses-là. Donc avec ça, le chauffeur routier doit payer son petit déjeuner. Donc on va faire le calcul, admettons un petit déjeuner, deux croissants, un café, on va dire qu'il est 3 euros. Son repas au restaurant du midi, on va dire qu'il mange pour 10, 12 euros. Son repas du soir, on va dire qu'il mange pour 12 euros aussi. Donc on en est à 27 euros.
Mmh.
Il reste 32, 33 euros et avec ça, il est censé, le chauffeur routier est censé de se payer une chambre d'hôtel. Donc le chauffeur routier paye pour travailler. Du coup, la plupart des chauffeurs routiers dorment dans leur camion. C'est ce qu'on fait tous. Et se font à manger dans le camion. Et en fait, les 800 euros que je parlais, c'est la perte parce que je ne dormais plus dans le camion.
D'accord, je comprends. Alors, c'est des remboursements de frais calculés de façon forfaitaire.
Voilà.
Qui vont... en fait, ce n'est pas du salaire, on est bien d'accord. Alors,
c'est ça.
Les patrons diront charge, les militants diront cotisation. Mais en fait, il n'y a pas de cotisation, on est bien d'accord.
Il n'y a pas de cotisation
sur la retraite,
sociale.
Tout ça, c'est... Voilà, ça, c'est que... C'est une apparence de rémunération, en fait. C'est un remboursement de frais, ce qui fait que... Voilà, en fin de compte, les routiers ne sont pas si bien payés que ça. Ils ont beaucoup de frais. C'est peut-être presque une petite magouille. Ça, ce n'est pas lié à la réglementation sociale européenne. C'est la convention collective.
C'est la convention collective.
Du coup, ça serait, par exemple, les syndicats réformistes, hein, il paraît, ceux qui signent tout dès qu'il y a un stylo qui traîne, qui signent des accords avec le patron. Du
c'est
coup, c'est travail déguisé. Quoi.
C'est ça, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, un chauffeur routier qui part toute la semaine, qui rentre le vendredi soir, voire le samedi matin, et qui repart le dimanche soir, voire le lundi matin de chez lui, donc toujours le week-end tiré au plus court, va avoir à la fin du mois un net à payer d'environ 3000 euros, un peu plus, un peu moins.
Mm-hmm.
Mais dans ce net à payer-là, il y a environ 1000 euros, c'est... Ça correspond au découché, donc il n'y a plus que 2000 euros de salaire. Et ces 2000 euros de salaire correspondront à un travail, sans compter le bénévolat, juste le travail inscrit sur l'appareil, d'environ 200 à 240 heures par mois.
Ah oui, quand même. Donc en fin de compte, les chauffeurs routiers ne sont pas bien payés. Alors si je comprends bien, c'est artificiel. C'est,
oui, oui.
Ils compensent un nombre d'heures pas possible,
c'est
tu
ça.
Me dis 240 heures,
les...
si j'ai bien entendu,
c'est
par... par des trucs qui leur bénéficieront pas.
Ce qui fait que les calculs savants du patronat permettent de payer en vérité le chauffeur routier même moins que le SMIG.
Bah ouais, s'il fait du bénévolat, c'est fort possible. D'accord. Bah merci pour ces explications.
Voilà. Et toujours en plus au détriment du sommeil. Parce qu'à l'heure actuelle, ça a toujours été, et aujourd'hui avec le Covid, on en a parlé un peu plus. Il y a aussi d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça. C'est que bah, quand on est dans le camion, c'est pas un camping-car. Il n'y a pas de douche à l'intérieur, il n'y a pas de toilette. Donc, quand on fait, le chauffeur routier qui fait sa nuit, s'il veut prendre sa douche au soir après sa journée de travail, bah, il va perdre une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'il faut faire la queue pour aller prendre sa douche dans une station-service où est-ce qu'il y a 200 personnes qui ont pris la douche avant.
Oui.
Ensuite il faut manger et donc le chauffeur routier va dormir environ 6 heures à l'heure où est-ce qu'on parle de santé au travail, que le sommeil c'est important. En fait on se rend compte que la RSE qui est censée permettre au chauffeur routier de se reposer ne lui permet pas du tout.
Ouais, finalement ouais, ça me fait, je peux me permettre de faire un parallèle avec les plus précaires. En fait tout est possible, tu peux prendre ta douche mais il faut faire la queue, donc du coup c'est plus long. Un peu comme des personnes qui vivent dans les chambres de bonne ou des sans domicile. On trouve toujours un endroit pour se laver, mais ça va prendre du temps. Tout est plus compliqué. Donc,
c'est ça.
Donc, je comprends. Donc, c'est vrai, c'est pas des... c'est une... ça a l'air d'être une vie un peu particulière.
Oui, okay. Oui. Bah. C'est une vie plutôt particulière et que disons que, contrairement à ce que disent les gouvernementeurs, ne va pas du tout en s'améliorant. Parce qu'à une époque, les chauffeurs routiers travaillaient beaucoup, ça a toujours été, mais ils avaient un peu plus de liberté. Alors, ils ont utilisé cette liberté pour s'auto-exploiter un petit peu plus. Et à l'heure actuelle, le chauffeur doit continuer à s'auto-exploiter autant que l'époque où les chauffeurs avaient de la liberté. Mais en plus, il n'a plus les libertés des chauffeurs de l'époque. Donc, on se retrouve coincé dans un cercle vicieux, privé de nos droits, parce que, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, de se faire enfermer en cage, privé de nos effets personnels et de nos papiers d'identité, bah, même un gendarme ou un policier a le droit de nous mettre dans ces conditions-là, à condition que ce soit signifié comme une garde à vue. Mmh. Donc, même quelqu'un d'assermenté, pour se permettre de nous mettre dans de telles conditions, doit appliquer un certain protocole. Et là, non, c'est un vigile ou un simple ouvrier.
Oui, ils n'ont pas les droits, mais de toute façon, il n'y a rien qui justifierait de vous priver de liberté, en fait. Ou de vous faire une garde à vue, même si vous n'avez pas fait de truc suspect. Vous demandez juste à travailler, en fait. Enfin, vous demandez juste à être payé, et on vous demande de faire ce boulot-là. Ok.
C'est ça, et à l'heure actuelle, les grands groupes, ces fameux grands groupes dont on parle, pour exploiter des milliers de personnes et ne pas payer leurs impôts en France et déroger à toutes les cotisations sociales, ce sont ceux qui jouent le plus sur ça. Et les petits employeurs sont obligés de s'aligner. Donc pour ceux, certains sont obligés de s'aligner et d'autres profitent de ça pour s'aligner et exploiter encore plus leurs salariés. Donc ce qui fait que en fait de la petite entreprise avec deux ou trois chauffeurs à la grande entreprise qui a plusieurs milliers de chauffeurs, les conditions de travail du chauffeur routier seront les mêmes, juste certaines entreprises ont une vitrine un peu plus belle que d'autres. On est vraiment dans les conditions de travail propres au métier, voulues par le gouvernement et aussi par les syndicats de collaboration, ou plutôt les syndicats se disant réformistes, qui acceptent de signer toutes ces choses-là. Ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans un métier où est-ce que plus de 99% des chauffeurs routiers sont anti-syndicats, totalement contre le syndicalisme, n'accepte pas les luttes sociales. Là, à l'heure actuelle, avec les pénuries de gasoil, on voit de nombreux chauffeurs routiers dire que c'est pas normal parce qu'ils peuvent plus travailler, blablabla. Et quand on leur dit s'ils obtiennent quelque chose et puis que les luttes les luttes des salariés en grève permettent une augmentation du SMIC, par exemple, du coup, toi, tu vas renoncer à l'augmentation du SMIC et demander à être payé à l'ancien taux. Non, ça, c'est pas normal.
Ouais. Ok.
En gros, on se retrouve dans un phénomène de société très très particulier. Et à l'heure actuelle, les entreprises, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis une bonne vingtaine d'années, disent tous que le métier de chauffeur routier, les conditions de travail des chauffeurs routiers se sont nettement améliorées, qu'elles vont toujours en s'améliorant et qu'elles sont toujours de mieux en mieux, que les salaires sont toujours de mieux en mieux. Sauf qu'en fait, un routier d'aujourd'hui, partant la semaine, gagne 3000 euros par mois en comptant les frais de route. Mmh. Et il y a 20 ans, le même chauffeur routier, pour le même travail, gagnait à peu près 20, 22, 23 000 francs, ce qui est au-dessus des 3 000 euros.
Ce qui était même certainement des rémunérations bien meilleures pour par rapport à l'inflation ou autre, par rapport au prix de l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Hein, il y avait pas mal de slogans, les routiers sont sympas, et on avait l'habitude, on voyait beaucoup de bars routiers, des trucs énormes, et la plupart sont fermés, du coup. Je sais pas, moi je me dis, est-ce qu'il y a moins de chauffeurs routiers, ou est-ce que finalement, ils sont peut-être un peu moins bien payés, plus mal rémunérés qu'ils l'étaient à l'époque, on va dire, et finalement ils peuvent plus se permettre d'aller dépenser ces fameux frais forfaitaires qu'on parlait, et qui font, soit ils mangent pas, soit ils font la bouffe eux-mêmes, ou soit on leur demande de bosser. Est-ce qu'il y a un lien là-dessus ou pas?
Oui, il y a un lien avec tout à la fois. Donc déjà, le côté financier, c'est le calcul approximatif que je faisais tout à l'heure. Un découché payé 60 euros pour les trois repas de la journée et la nuit d'hôtel, ne permet plus de payer tout ça parce que une nuit d'hôtel, c'est aller en 40-50 euros et en plus l'hôtel est inaccessible en camion. Donc voilà.
Puis qui garde le camion ? Excuse-moi de te couper. Qui garde le camion ? Je pense que ça arrange aussi le,
oui, c'est ça.
Le patron. Vous êtes un antivol si vous restez dedans.
C'est ça. Et à l'heure actuelle, bah, le fait d'être payé en découché, en fait, le seul intérêt pour la plupart des chauffeurs, c'est d'économiser cet argent, de le garder pour leur vie personnelle et du coup de manger dans le camion. Donc il y a ça qui impacte les restaurants routiers. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'interdictions poids lourds et du coup des restaurants routiers qui se retrouvent sur une route où du jour au lendemain la route se retrouve interdite aux poids lourds. Donc bah, interdite à leurs clients. Et puis bah, il y a aussi ce phénomène, justement la manipulation de la RSE qui fait que le chauffeur routier ne va pas s'arrêter au midi pour manger dans un restaurant étant donné qu'il a déjà fait sa pause en travaillant gratuitement dans une entreprise. Sa pause est déjà faite. Donc ensuite, il n'a plus le temps de s'arrêter pour faire une vraie pause.
D'accord. Ouais, je comprends un peu le truc. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport et si tu vas pouvoir nous répondre. Mais du coup, est-ce que ces fameux bistrots, bars de routiers, c'était pas aussi un des derniers lieux où on pouvait discuter de ces conditions de travail en bien comme en mal? Et est-ce que ça ne favorise pas justement l'individualisme? Est-ce que les gens continuent toujours à... Est-ce qu'il y a une vraie solidarité, tu penses, dans le monde des chauffeurs routiers?
Alors, ce que tu dis, c'est vrai sur le fait qu'effectivement, en dehors des restos routiers, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les chauffeurs routiers pouvaient socialiser entre eux et du coup parler des conditions de travail, etc. Donc ça, c'est complètement vrai. Malheureusement, il y a aussi toute cette, en gros, cette psychologie sociale, les manipulations de groupe, etc., faites depuis quelques décennies par le patronat, qui font que pour beaucoup de chauffeurs routiers, c'est perçu comme une gloire d'en faire plus qu'un autre et plus que ce que la loi prévoit, d'aller toujours plus vite, même si c'est interdit, de glorifier leur chef, ou du moins de pallier l'échec professionnel d'un petit chef incapable de prévoir les temps de repos correctement du chauffeur en faisant du bénévolat. Et du coup, à l'heure actuelle, dans beaucoup de restos routiers, le chauffeur comme moi qui dit « bah ouais, mais les mecs, vous vous plaignez que vous en faites de trop, arrêtez de travailler gratuitement déjà, et puis quand vous êtes fatigué, reposez-vous », bah ces mecs comme moi sont minoritaires et se font traiter de feignants, de tir au flanc, etc. Parce qu'on est complètement... c'est à l'inverse à l'usine, le mec qui arrive, qui casse la cadence, qui fait tout pour en faire plus, ça va être très mal vu. Et là, c'est le contraire. Celui qui respecte la cadence comme elle doit être, qui ne fait pas d'excès de vitesse, qui ne fait pas de bénévolat, etc., et du coup qui ne fait pas plus que ce que la loi lui permet de faire, va être vu comme un tir au flanc. Et ça, c'est quelque chose que les patrons ont réussi à instaurer dans la tête de la plupart des chauffeurs routiers. Et du coup, aujourd'hui, dans les restos routiers, même socialiser en discutant des conditions de travail, c'est quasiment impossible. Ou alors, on obtient des réflexions du genre « Ah ouais, t'as raison de lutter, par exemple, contre la voie au travail. Moi, la semaine prochaine, je ferai grève avec toi, j'irai manifester avec toi. C'est quel jour ?»« Ah, c'est jeudi. Bah non, le jeudi, je peux pas faire grève, je travaille.
» Ouais. Alors finalement, le patronat n'a pas forcément besoin de mettre la pression si des gens se tapent la bourre. Quoi. Il suffit juste d'entretenir l'esprit de compétition.
En fait, les patrons ont bien compris. Les patrons ont bien compris que le pire ennemi du travailleur, c'est le travailleur lui-même, en règle générale, puisque il suffit de lui faire comprendre qu'il sera bien vu et il aura la reconnaissance de son maître s'il fait du zèle et qu'il en fait toujours plus, et il s'auto-exploitera lui-même. Et s'il ne le fait pas, un autre le fera à sa place et d'autres copieront cet autre. Et en quelques années ou quelques décennies, c'est devenu la norme.
Sylvain propose de faire une pause, mais pour une pause musicale. Bah écoute, je te laisse lancer la musique et puis on verra s'il y a moyen de rebondir par rapport à la musique qu'on va passer.
Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse, ce n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure une heure ou deux, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou cinq heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne. Ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne. C'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrognier, pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baissent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. Ivrognier, pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baissent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard.
D'écouter une chanson qui parle d'ivrogne que je ne connaissais pas. Merci de l'avoir passé. Il y a un rapport avec le monde des transports ou pas?
Ah non, non, c'est pas moi qui ai choisi la chanson, mais non, non, cette légende des routiers alcooliques, ce n'est plus du tout le cas. Ça a pu l'être selon certaines rumeurs à une époque que moi j'ai pas connue. Effectivement, le fait de travailler 60, 70, voire même 80 heures par semaine et de se retrouver bloqué le week-end sur la route pour rentaquer sur une même semaine, certains chauffeurs profitaient bien de leur week-end et en même temps n'avaient rien d'autre à faire que de boire tout seul dans leur camion. Mais à l'heure actuelle, les contrôles réguliers de la gendarmerie ou de la police font que ça fait des années que je n'ai pas vu de chauffeur routier boire de l'alcool okay. Pour en gros se bourrer la gueule avant de conduire, quoi, on va dire.
Ok, non, mais après c'est déjà c'est tant mieux, hein, si c'est une légende, c'est rassurant.
Oui, oui.
Par rapport aux accidents que ça pourrait causer, enfin on voit déjà les risques que vous prenez, que vous faites courir à d'autres personnes par cette réglementation qui permet de bosser sur des amplitudes pas possibles, comme tu nous expliquais. Bon,
okay. Oui, et puis à ça, donc justement, on manque déjà de sommeil pour avoir une bonne santé dans le métier, par rapport à ce qui est recommandé. On a aussi quelquefois pas du tout de sommeil, voilà, parce que ce que j'ai expliqué en fait sur le temps de repos, c'est pas le chauffeur n'a pas besoin de se reposer, c'est son camion qui doit se reposer, en gros. Parce qu'il y a aussi les spécificités de certains transports. Aujourd'hui, si une personne laisse son chien enfermé dans une voiture et puis que quelqu'un lui éclate le carreau pour sortir le chien, la personne qui a laissé son chien enfermé dans une voiture va à risque gros, peut être poursuivie au tribunal et tout pour avoir laissé un chien enfermé dans une voiture.
Ce qui est normal, ouais.
Ce qui est tout à fait normal. En revanche, un chauffeur routier qui passe 11 heures en plein soleil, qui a roulé toute la nuit et 11 heures avec son camion garé en plein soleil, et qui est censé dormir là-dedans, lui, c'est normal qu'il y dorme. Il se fait même réprimander par son patron s'il fait tourner le moteur pour essayer d'avoir la clim. tous les camions ne sont pas équipés de clim de nuit qui permettent d'avoir la clim sans faire tourner le moteur. Donc, moi, ça m'est arrivé des étés, mettre un thermomètre qui s'arrête à 60 degrés et que le thermomètre pète à l'intérieur de la cabine du camion. Parce que quand on voit le soleil qui tape sur une voiture, la chaleur qu'il peut faire à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un camion, c'est encore pire avec le pare-brise qui est vu la taille du pare-brise. On choisit pas non plus de pouvoir se garer à l'ombre. D'ailleurs, de l'ombre, on n'en a quasiment pas pour nous. Et ce qui fait que dormir par des températures de 60 degrés, quand on est dans le sud de la France, en plein soleil, la cabine en plein soleil, toute la journée comme ça, forcément, on ne peut pas dormir. C'est impossible. On fait juste des espèces de micro-comas, comme certaines personnes du domaine médical expliquent. C'est-à-dire qu'une fois que le corps est à bout, on s'endort dans la couchette, on se réveille une heure après, en sueur comme pas possible. Et puis après il faut rattaquer pour une nuit sur la route. Donc c'est ça les conditions de travail normales d'un chauffeur routier.
Ouais, ça c'est une norme quoi. Voilà. Du coup ce qui c'est vrai, il y a pas que la paye, il y a vraiment les conditions de travail qui doivent jouer sur ce que les employeurs appellent une pénurie quoi. En fait sur le manque d'attractivité du métier, j'imagine. Oui,
c'est ça. Disons que aujourd'hui les gens n'ont plus forcément envie d'accepter des choses que la loi interdit de faire à leur chien. Ce qui veut parce que le routier en fait un peu comme les nazis qualifiaient les gens certaines personnes de sous-humains, le chauffeur routier est une sorte de sous-citoyen, de sous-humain,
un sous-prolétaire.
Voilà, on lui accorde moins de droits et de protection par la loi qu'un chien. On lui prive de ses droits comme un policier n'a pas le droit de priver les citoyens de leurs droits, mais en revanche un travailleur lambda d'une entreprise peut se permettre de priver les droits et de retirer les libertés d'un chauffeur routier. Donc les gens commencent à se comprendre qu'on est clairement considéré comme une sorte de sous-classe. Une sous-classe de travailleurs qu'on peut obliger à aller aux toilettes dehors, etc. Parce que ça, il y a aussi de nombreuses entreprises. T'es chauffeur routier, t'es enfermé pendant 4-5 heures chez eux, mais t'as pas accès aux toilettes, t'as pas accès à de l'eau courante, rien du tout. Si tu vas aux toilettes, tu te débrouilles. J'ai déjà vu des chauffeurs routiers tourner en rond autour de leur camion, pressés de partir, et puis au bout d'un moment, monter dans leur camion et puis se changer parce que ils avaient fait dans leur pantalon parce que pas de toilette.
Ok.
Donc c'est les conditions de travail normales du chauffeur routier quoi. Donc ça peut paraître bizarre mais non, c'est la norme. On nous explique que c'est normal, que c'est comme ça. Dans certaines entreprises, on nous dit non, mais il n'y a pas de toilette pour vous, les chauffeurs, parce que vous véhiculez toutes sortes de maladies, vous pouvez propager des épidémies et tout, donc on veut pas de vous, voilà. Et ça, avec le Covid, ça s'est vu, mais ça se voyait déjà avant, hein. On était déjà traité de cette façon-là avant le Covid.
Hein. Donc, en fin de compte, au-delà des mauvaises conditions, en fait, l'impact, c'est qu'aussi vous êtes peut-être considéré plus ou moins comme des pestiférés par les clients ou autres.
Oui, dans beaucoup d'endroits.
Vous avez une image particulière qui collerait à la peau, en fait.
Oui, c'est ça, dans beaucoup d'endroits. Après, c'est pas non plus une généralité. Ça arrive d'aller dans certaines entreprises où est-ce que c'est correct, il y a des sanitaires corrects à disposition, voilà. Mais c'est quand même la norme, déjà, qu'il n'y ait pas forcément de toilettes à disposition ou... On nous met à l'écart, on nous interdit de côtoyer le personnel de l'entreprise. Certaines personnes dans les entreprises, j'ai déjà parlé avec des syndicalistes d'entreprises accueillantes dans lesquelles je suis allé charger ou livrer. Et que les syndicalistes, justement, dénonçaient le fait qu'on crée une sorte d'apartheid entre eux en tant que travailleurs et nous. Les routiers en tant que travailleurs et que dans leur petit chef, on va dire, leur disait oui mais non, faut pas que vous parliez aux chauffeurs parce que ils véhiculent toutes sortes de maladies, etc. Et puis si vous leur parlez, vous aurez des problèmes et qui essayent de les mettre à l'écart. Et justement, eux, dans leur travail syndical, les syndicalistes de ces entreprises essayent justement de rappeler que l'intérêt du patronat, c'est de diviser pour mieux régner, et que si deux corps de métier travaillant ensemble viennent à être solidaires et à se côtoyer, forcément le patronat des deux entreprises différentes sera beaucoup moins fort. Mais malheureusement, c'est une psychologie sociale qui fonctionne encore à l'heure actuelle au détriment du salarié. Donc, par exemple, on a dans certaines entreprises, on voit, il y a des panneaux, toilettes interdites aux chauffeurs. Pour les chauffeurs, merci d'aller au bout de la cour. Mmh. Et au bout de la cour, il y a quelquefois sur une journée des entreprises qui reçoivent 1000, 1500 camions. Et tout au bout de la cour, il y a une porte à cabine, une cabine de toilette en plastique d'un mètre carré. Pour 1000 chauffeurs qui vont passer dans la journée, qui est posé au fond de la cour. Et certains salariés, j'ai déjà vu un salarié se faire sanctionner pour m'avoir autorisé à rentrer dans leurs locaux pour aller prendre ma douche pendant le temps d'attente. Et j'ai pris ma douche dans leur vestiaire. Le salarié a été sanctionné. Donc voilà.
D'accord.
Et en fait, ce qui se passe dans le transport aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qui se passe dans la plupart des entreprises. La seule chose, c'est que chez nous, c'est caché aux yeux de beaucoup de personnes. Et en même temps, pour ceux qui regardent le transport, comment ça se passe, c'est ultra visible. Mais malheureusement, des travailleurs traités comme des pestiférés... privés de leurs droits bafoués par le patronat, ça s'appelle l'exploitation salariale, et c'est malheureusement la chose dans tous les corps de métier. Juste dans certains, il y a certaines choses qui se voient plus que d'autres.
Ouais, et puis j'imagine en plus, avec l'apparence d'avoir des rémunérations correctes, comme tu nous as expliqué que c'était finalement pas le cas, et au vu de la difficulté du boulot, au vu des fois même de cette compétition. Les gens, ils n'y croient pas, en fait. On a du mal à adhérer que vous seriez des victimes. Et puis c'est l'impression que c'est un peu organisé aussi par le patronat, présenté comme des super boîtes, que vous êtes bien payés.
Oui, voilà.
C'est un peu la décence des patrons, des fois, dire mais tout va bien. Et effectivement, on ne se rend pas forcément compte. C'est un milieu qu'on ne connaît pas trop, quoi, quand on est de l'extérieur. Ok.
Oui, moi, j'ai déjà vu... dans une ancienne entreprise, le patron me dit « Mais vous avez de la chance de travailler pour nous, vous vous rendez compte, même si vous n'avez pas, même si vous ne découchez plus, que vous perdez 800 euros par mois, allez travailler à l'usine comme balayeur, vous gagnerez moins. » Et puis le patron expliquait que j'étais chanceux, je devais m'estimer heureux, etc. Et en fait, c'est un peu le discours des patrons en général dans tous nos corps de métier, et... Sauf que c'est plus facile lorsque on a un salaire à 2000 euros que lorsqu'on a un salaire au SMIC mensuel, quoi. Mmh. Et ensuite, il y a aussi une autre chose dans le transport, c'est que pendant de nombreuses années, il y avait ce que les patrons dénonçaient comme la concurrence déloyale des pays de l'Est.
Ouais.
Qui était en fait juste la même chose que les patrons faisaient dans les entreprises françaises avant que les camions des pays de l'Est viennent en Europe. C'était les entreprises européennes qui allaient chez eux, qui profitaient du fait que là-bas ils avaient moins d'approvisionnement et qui n'ont pas hésité à prendre l'argent des transports. Et que lorsqu'ils ont arrêté de pouvoir le faire, ils ont dénoncé que les mecs des pays de l'Est venaient ici. Donc il y a eu beaucoup de chauffeurs routiers français qui se sont mis à devenir contre les chauffeurs des pays de l'Est. Et suite à ça, les patrons ont dit non, mais les chauffeurs des pays de l'Est, en vrai, c'est parce qu'ils travaillent moins cher que nous s'ils font de la concurrence. Alors du coup, nous maintenant, on va en embaucher, puis on va les embaucher comme des Français, et ils seront en contrat français, comme ça sera plus de la concurrence déloyale.
D'accord, ouais.
Et en fait, on s'en revient à une forme d'esclavage des temps modernes, c'est-à-dire que ils font venir des chauffeurs de Roumanie, de Moldavie, d'Ukraine, etc.
Ouais.
Embauchés en contrat français, le même taux horaire, etc. Alors. Sauf que toutes les choses que les chauffeurs français ne veulent plus faire parce qu'ils ont déjà eu des amendes, c'est à eux que ça sera imposé.
Attends, j'essaie de comprendre. Du coup, tu nous disais qu'à un moment... ça venait plus ou moins du patronat qui expliquait qu'il pouvait pas plus payer les salariés et prétextait l'arrivée de concurrents de l'Est, du coup, oui, des entreprises de l'Est. Alors que certains, à un moment, certaines entreprises françaises, je crois, avaient utilisé des stratagèmes pour embaucher des travailleurs européens en détournant la législation, en le payant au salaire de leur pays d'origine, qui est inférieur à celui de la France. Ce qui a permis finalement de dire, j'y peux rien, j'ai du mal, je peux pas vous payer, quoi, en gros.
C'est ça.
Puis finalement, si on aurait des patrons antiracistes qui embaucheraient des chauffeurs venus d'ailleurs au prix français. Et tu nous dis que c'est pas exactement ça la vérité, c'est ça?
C'est ça. Ces patrons-là vont jouer la carte de la philanthropie à dire, oui, mais nous, on est des patrons très généreux. Regardez, on pourrait les embaucher et les faire travailler à 1 000-1 500 euros par mois. Et là, on les fait travailler pour 3 000 euros par mois. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils vont acheter tout leur pays avec ça.
Ça, c'est encore à eux de voir s'ils veulent racheter leur pays, même s'ils ont déjà les moyens. Ouais. D'accord.
Et puis, en fait, dans la pratique, c'est juste pour profiter de leur méconnaissance de la réglementation française, des lois, des calculs de cotisations sociales, etc. Et on se rend compte que certains sont payés à des taux horaires inférieurs au SMIC, d'autres voient énormément d'heures disparaître. C'est à eux qu'on demande aussi de faire toutes sortes d'infractions, beaucoup plus.
Ah oui, je comprends. Ouais. Du coup, finalement, c'est peut-être ces mêmes patrons qui créaient au scandale de la concurrence des pays de l'Est, qui n'avaient pas compris comment ils pouvaient bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché, qui sont mis à dire on va les payer au salaire français, mais bon, pas exactement, ou du moins on va leur en demander plus. Donc ces mêmes patrons qui criaient au scandale d'une concurrence illégitime. Mais finalement, aujourd'hui, ils l'exploitent encore plus. C'est ça que tu veux dire, quoi. Je sais pas si tu as des exemples, sans forcément citer des boîtes ou toute situation concrète.
Oui, j'en ai plusieurs. J'ai des exemples. Une entreprise une entreprise où j'ai travaillé, j'ai quitté l'entreprise en question parce que j'ai regardé ma fiche de paye et j'ai vu que j'avais été payé pour 230 heures. Et j'ai regardé mon calcul d'heures et j'avais fait 290 heures.
D'accord. Donc, ton patron t'a imposé du bénévolat ou il s'est trompé?
Il m'a retiré des heures et il m'a dit que c'est parce que je me mettais trop souvent le tachygraphe en position travail et que je devais faire comme les autres, le mettre en position coupure pendant que j'étais chez les clients.
Ah oui, donc c'était plus un choix, d'accord.
Je lui ai remis ma démission, j'ai fait mon préavis et je suis parti. Et dans cette même entreprise, il y a des chauffeurs roumains et un d'entre eux, lui, pour travailler entre 280 et 290 heures, il s'est retrouvé payé 190-195 heures.
D'accord, donc lui aussi, mais lui c'était... C'est pire. Il était plus sanctionné, en fait, que toi. D'accord, donc tout le monde doit faire du bénévolat. Mais certains encore plus que d'autres, c'est ça?
Et le patron lui a expliqué que c'était à cause du Covid. Et en même temps, la situation justement de chauffeurs de pays de l'Est qui viennent ici pour essayer d'avoir un travail mieux payé.
Ouais.
Et de se créer une situation de vie un peu meilleure pour eux, pour leur famille, se retrouvent pris au piège. Parce que là, le chauffeur en question, en fait, on s'en retrouve un peu comme les vieilles pratiques mafieuses de confiscation de papiers, d'identité et tout, pour obliger des gens à faire du sale boulot. Le collègue en question reçoit son courrier administratif en France à l'adresse de l'entreprise. Donc le patron intercepte tout son courrier. Il n'a jamais reçu de carte vitale, il n'est même pas au courant s'il a une carte vitale, s'il est enregistré à la Sécu. Il n'a pas de justificatif de domicile ni de compte en banque en France, malgré que c'est imposé par la loi du fait qu'il est travailleur en France. Et il n'a aucune idée de sa situation administrative en France. Et le patron lui dit non, mais t'inquiète pas, j'ai tout rempli pour toi, même la déclaration d'impôt, je l'ai faite. Et le mec, en fait, il sait pas. D'accord. Et du coup, il se retrouve aussi piégé à plus pouvoir aller travailler dans d'autres entreprises.
D'accord, du coup, ouais, tu penses que comme les personnes qui viennent bosser ne sont pas forcément guéries sur les législations françaises ou autres, comme ça pourrait être le cas si toi, tu as décidé d'aller exercer dans un autre métier, enfin ton métier, pardon, mais dans un autre pays, les patrons, finalement, c'est presque à une assistante sociale ou à l'assistant social en créant même une domiciliation chez eux,
oui, c'est ça.
En leur assurant qu'ils ont des droits, limite, ils pourraient même se passer de syndicalistes en leur expliquant qu'ils vont défendre leurs propres conditions de travail.
C'est ça.
Et dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Tu remets ça en doute, tu t'es retrouvé, du coup, si je comprends bien, avec des collègues à qui on leur disait « Non, c'est normal », mais qu'on n'était même pas sûr qu'ils aient des droits enregistrés, voire même qu'ils soient complètement déclarés.
C'est ça.
Si je vais un peu plus loin.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et pareil, les collègues en question, comme ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment est comptée la fiche de paye ou quoi que ce soit, ils disent « Oh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux heures, par rapport aux frais de route, eux, ils sont au courant de rien de tout ça. » Donc, ils regardent juste la somme que le patron leur envoie sur le compte en banque. Et quelquefois, on se rend compte que si sur, par exemple, 3000 euros, moi, pour le même travail, je vais avoir 1000 euros de frais de route et 2000 euros de salaire, bah, eux, ils sont 1200 euros de salaire PR ou 1400 euros de salaire et le reste, c'est que du frais de route. Parce que le salaire, il y a les cotisations sociales et pas les frais de route.
D'accord. Ouais, ça, c'est intéressant, en fait.
Et la dernière entreprise dans laquelle j'étais, qui était en licenciement, donc j'ai eu le droit à un licenciement économique.
Quelle chance.
Voilà. Et en fait, eux, ils ont joué encore plus loin parce que du jour au lendemain, donc on nous a dit, lundi, tu roules pas, voilà, les camions sont repartis. On a attendu la fin du mois pour avoir le salaire et pas de salaire.
Mm-hmm.
Le salaire, on l'a eu avec 3 semaines de retard. Ouais. Et ensuite, ça a été le temps que les procédures se mettent en route, le liquidateur judiciaire, l'administrateur judiciaire commence à prendre le dossier en charge. Il y a eu des retards énormes.
Ouais.
Et comme c'était la guerre en Ukraine qui venait de commencer et qu'il y avait des chauffeurs ukrainiens, les mecs, il fallait absolument qu'ils retrouvent du boulot parce qu'ils venaient de faire sortir leur famille. Leur famille là-bas avait tout abandonné et se retrouvaient à partir vivre en Pologne ou autre, sans travail, sans rien. Donc le chauffeur en question qui se retrouve là, privé de salaire en France, il est obligé d'accepter le premier boulot venu pour envoyer de l'argent à sa famille. Et du coup, en licenciement économique, t'as certains droits, etc. Et la patronne leur a dit, oui, mais moi, ça fait 4 ans que vous travaillez pour moi, ça va me coûter cher de vous licencier. Mais si tu veux ton salaire, écoute, tiens, tu signes là, c'est ta démission. Et en fait, et du coup, ils ont eu leur dernier salaire tout de suite au lieu d'attendre 2 ou 3 semaines de plus. Mais ils ont perdu tous leurs droits, les droits au chômage. À supposer qu'ils étaient déclarés à l'URSSAF, hein. Ils ont perdu leurs droits au chômage, les droits à la prime de licenciement, ils ont juste touché leur dernier salaire, même leurs congés payés, ils les ont pas touchés, et puis s'ils acceptaient pas ça, ils pouvaient pas aller travailler ailleurs et puis envoyer de l'argent à leur famille.
D'accord. Et du coup, ouais, l'ancienne patronne, en leur faisant ça, ouais, ça leur permet éventuellement de tenter de récupérer quelque chose suite à la faillite de la boîte. Que limite, ça aurait pu ne plus être son problème ou d'éviter d'être condamné si elle n'a pas fait les choses correctement. Elle a fait disparaître des gens.
Voilà.
C'est pas juste, j'imagine, pour le plaisir de leur nuire, même si on peut être tout à fait d'accord qu'elle les a méprisés le temps qu'ils étaient là.
C'était pour gagner de l'argent, parce qu'en fait, quand on regarde... Sur les chiffres officiels, l'entreprise a totalement fermé et il y a eu 20 chauffeurs privés d'emploi.
Ouais.
Sauf que comment l'entreprise fait pour fermer et qu'il y ait seulement 20 chauffeurs privés de leur emploi quand il y a une dizaine de chauffeurs qui ont le camion à la maison et 20-25 chauffeurs qui ont le camion à l'entreprise? On est déjà au-dessus du compte des 20 chauffeurs privés d'emploi.
Il y avait beaucoup plus de salariés, mais qui... C'est en fait quand t'es incité à partir d'eux-mêmes pour retrouver du boulot et du coup ça fait quand même moins de sous à débourser, moins de risques de condamnation. Ok. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on refasse une pause musicale et puis je rappelle pour celles et ceux qui veulent appeler pour réagir à l'émission, vous pouvez le faire au 01 43 71 89 40.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton.
Sur son passage, on chuchote, on méprise. Mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
La poursuivante ainsi la réflexion.
On finira par licencier le patron.
A-t-on jamais prêté de l'importance autrement que pour s'en débarrasser? Au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer. De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois à dégraisser? L'effectif pourtant insuffisant, mais Monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion,
on finira par licencier le patron.
Il ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence de l'extrait pur de ressources humaines. Dit-il, tout deviendrait bancal, l'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien.
Vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer.
Éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion,
on finira par licencier le patron.
Gens de labeur, salariés, tâcherons, à qui l'on a martelé le principe, qui dit, pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Rompons avec ces tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude, et tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons-nous promener au fond des bois pendant notre excursion.
Arrangeons-nous pour perdre le patron. Oh, oh, oh.
Ah, un accident de chasse.
Ça a du bon, la tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire, on me promet de me laisser K.O. Qu'importe, d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant, ensemble reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire,
on ira s'occuper des actionnaires.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, par être utile, lui qui ne sert à rien.
À rien, à rien.
Donc c'était Monsieur Gilou, interprété par les chanteurs livreurs. Une chanson bien de circonstance d'ailleurs, pas que dans le monde du transport, hein, dans tous les corps de métier. Et des Monsieur Gilou, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière de chauffeur routier. Je les salue tous et éventuellement j'en connaissais un de Monsieur Gilou qui était passionné de chasse. S'il veut inviter certains syndicalistes à la chasse, même s'ils n'ont pas le permis de chasse, peut-être que certains d'entre eux voudront faire une exception. Donc les Monsieur Gilou, dans les grosses entreprises, c'est aussi des personnes qu'on appelle responsables d'exploitation. C'est le terme le plus courant, donc en gros il est entre le patron et le petit chef.
C'est le DRH, en gros. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est tous ceux qui ont des pouvoirs de... Oui, des talents exceptionnels, quoi.
C'est ça. En gros, le patron patronne et il donne ses ordres. Et les petits chefs dirigent les camions. Et entre deux, il y a quelqu'un qui, lui, prétend diriger les petits chefs. En fait, il se contente juste de leur mettre la pression. Parce que quelquefois, les petits chefs, qu'on appelle des exploitants, rien que le nom m'amuse... Mmh. Sont quelquefois des anciens chauffeurs qui en ont marre de la route, qui décident de passer dans les bureaux, et là, qui eux justement veulent essayer de distribuer le boulot correctement, essayent de faire tout pour ne pas imposer des coupures à leurs chauffeurs, etc., et d'améliorer un peu les conditions de travail des chauffeurs, et ils ont du coup ces mecs-là. Un monsieur Gilou qui va venir leur taper sur les doigts et leur dire non, tel chauffeur faut lui faire ci, tel chauffeur faut lui faire ça, pour s'assurer que l'exploitant exploite bien un maximum et rappelle toujours au chauffeur son devoir d'obéissance et de travailler gratuitement et de dévotion envers l'entreprise. Donc l'exploitant peut durer très longtemps dans le métier, comme au contraire ne pas durer. J'en ai vu certains au bout de 3 mois quitter la porte de l'entreprise.
Ouais, bah, HF, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un métier ingrat. Après, bon, personne les a. Personne ne les a obligés à le faire, si je dis pas de bêtises. Mais bon.
Oui, voilà. Après, disons que dans le transport, il y a eu une époque où est-ce que les chauffeurs routiers. Cherchaient eux-mêmes leurs fret, on les envoyait livrer à tel endroit, dans tel pays, et ils allaient sur le Minitel, le Telex, ou tout simplement dans des bourses de fret qui étaient dans des relais routiers. Et ils allaient dans des bourses de fret pour trouver un fret eux-mêmes pour rentrer. Et là-bas, t'avais des affréteurs qui disaient, bah là, j'ai un trajet à charger à 100 km d'ici pour retourner dans tel pays, dans telle ville. C'était les chauffeurs qui faisaient ça, mais ça s'est arrêté. Et de ce fait-là, bah, il fallait quelqu'un sur un ordinateur pour trouver les chargements, les déchargements, les retours. Et du coup, ça pourrait être un travail d'équipe entre cette personne derrière son ordinateur et les chauffeurs derrière leur volant, si il n'y avait pas de lien hiérarchique, mais que c'était considéré juste comme il y a celui qui peut conduire le camion et puis il y a celui qui peut trouver les trajets du camion. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas un travail d'équipe entre les deux et que cette personne derrière son ordinateur ne soit pas un collègue mais bel et bien un chef, il y a un monsieur Gilou au-dessus de lui pour imposer une hiérarchie entre le chauffeur et l'affréteur ou plutôt l'exploitant.
D'accord, ouais, donc si jamais l'exploitant n'est pas assez exploiteur, il y aura du coup le monsieur Gilou qui va lui dire c'est lui qui a... empêcher la machine d'avancer, et il va falloir le sanctionner, en fait, que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure.
C'est ça.
En lui faisant perdre éventuellement ses salaires déguisés, ses paillettes de salaire, et puis en lui donnant des tournées plus difficiles.
C'est ça.
Réputées plus difficiles que les autres, quoi.
C'est ça, et quand un exploitant refuse de faire du sale boulot comme ça, il fait pas longtemps dans l'entreprise.
D'accord.
Où il finit par être victime de harcèlement. Donc forcément, le monsieur Gilou ne sert à rien, sauf à jouer les tampons du patron et à permettre au patron d'être plus relax. L'exploitation sera faite, parce que si monsieur Gilou n'engueule pas ses subordonnés directs, à quoi il sert aux yeux du patron ? Mmh. Alors, j'avais fait un parallèle tout à l'heure par rapport aux chauffeurs des pays de l'Est.
Ouais.
Il y a aussi un phénomène très intéressant pour ces chauffeurs-là dans le transport, c'est qu'ils commencent à avoir des entreprises qui les embauchent et qui leur proposent de faire du fret vers leur pays d'origine.
C'est-à-dire que ces entreprises qui les embauche en France,
voilà,
pour aller, pour qu'ils aillent tourner dans les pays, dans leur pays, parce que bah du coup ils maîtrisent la langue et tout, ça voilà, évite de leur apprendre éventuellement.
C'est ça, sauf que en fait, ouais, les entreprises, les quelques rares entreprises à faire ça, bah ça, sur le papier c'est comme ça, ils vont travailler 2 semaines, 3 semaines en France, et ils vont faire une semaine ou deux dans leur pays d'origine. Mais en fait, les chauffeurs en question, une fois qu'ils ont signé, bah, ils se retrouvent pendant les 2 semaines qu'ils font dans leur pays d'origine, bah, pas avoir beaucoup de boulot, etc. Et c'est juste plus ou moins un moyen de leur faire récupérer leurs heures supplémentaires en France, de les laisser 3-4 jours dans leur pays d'origine à pas rouler, mmh, en leur autorisant un petit détour de 100 ou 200 km pour aller voir leur famille. Et comme ça, on leur a imposé du RTT, et c'est une façon de tirer les salaires vers les bas, vers le bas.
Ouais, d'accord. En gros, on leur impose les repos en disant, bah, je suis sympa, en plus tu te reposes là où tu pourrais te sentir bien, alors que finalement, ils n'ont rien demandé. Et puis du coup, ils seront plus dociles,
voilà,
quand il va falloir bosser, quoi.
Et pareil, certaines entreprises aussi qui les font bosser ici en France, mais un week-end bloqué sur la route, c'est minimum 200 € de frais à payer et au chauffeur de la part de l'entreprise. Et là où les chauffeurs des pays de l'Est qui n'ont pas de maison en France, et c'est intéressant pour le patron, c'est que le week-end, quand le chauffeur rentre au dépôt,
ouais,
bah, il dort à l'hôtel, dans sa voiture, ou même quelquefois il reste dans le camion dans l'entreprise tout le week-end. Et du coup, bah, certains patrons, quitte à ce que le chauffeur reste dans le camion tout le week-end, bah, ils lui font bloquer le week-end sur la route, et ils lui payent pas les 200 € de frais de route, parce qu'ils estiment que le chauffeur en question, s'il rentrait à son point d'attache, il resterait dans le camion quand même. Donc, c'est deux voire trois week-ends bloqués dans le mois, le patron a économisé 400-600 €.
Oui, de toute façon, en faisant ça, ils doutent bien qu'il y a moins de chances que ces personnes-là demandent, les personnes qui n'ont pas un endroit pour rentrer, demandent à se faire payer le week-end, parce qu'ils ne vont pas prétexter, à juste titre, j'ai pas pu rentrer chez moi, parce qu'ils savent, du coup, ils en profitent bien, quoi. Du coup, toi, si par exemple, ça, ils te le faisaient, tu dirais, ben, moi, je rentre chez moi. Mmh. Donc finalement, c'est... Ils sont du coup pas si bien, moins bien traités comme on disait dès le départ. C'est même ça. Si on les paye au salaire français, ils ont quand même des conditions moins intéressantes.
Moi, d'accord. L'entreprise dans laquelle j'ai été licencié économique, bah, j'étais payé 200 € environ pour un week-end bloqué sur la route. Les chauffeurs des pays de l'Est aussi, mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les Français étaient payés 200 € pour un week-end bloqué et que eux non. Et ils ont été obligés de réclamer. Et en fait, la patronne leur a accordé de leur payer les 200 € de week-end bloqué, mais elle a réussi à détourner ça pour leur faire croire que c'était un acte de générosité de sa part envers eux. C'est le monde merveilleux du travail dans le transport et de l'exploitation. Comme quoi, l'ignorance des gens, c'est toujours la pire des faiblesses. Et c'est cette faiblesse qui est exploitée, parce que bah, quand on fait venir quelqu'un d'un autre pays qui ne connaît pas la langue et qui ne connaît pas les lois, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et ensuite, les patrons, la patronne, moi, le faisait, disait « Oui, mais moi, les chauffeurs des pays de l'Est, ils sont très rentables, ils font ça, et vous, les Français, vous voulez pas faire ça. » Et puis, quand t'as un gars comme moi qui vient et qui rappelle à la patronne, il y a que des collègues, il y a pas de Français, il y a pas d'Ukrainiens, il y a rien du tout, il y a pas d'histoire de frontières, il y a pas d'histoire de nationalité ou d'origine ethnique ou de quoi que ce soit, il y a juste des exploités et des exploiteurs, bah, forcément... Ça plaît pas forcément, et en même temps c'est aussi un peu ce que eux, une fois qu'ils ont travaillé un peu, ils se rendent compte aussi que c'est exactement ça. Certains d'entre eux essayent de se renseigner, de connaître leurs droits, et puis d'autres, dès qu'ils essayent, le patronat trouvera toujours un moyen de leur rappeler qu'ils ne sont pas considérés en fonction d'être un humain ou un travailleur, mais uniquement en fonction de leur origine.
D'accord, ouais, je comprends un peu que finalement, ça ressemble un peu au monde du travail en général, peut-être d'accord avec un peu plus d'atrocité en fait et de récupération. Quoi.
Disons que c'est un peu plus visible. C'est un peu comme on voit aujourd'hui le racisme décomplexé. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est devenu normal dans le monde du transport. D'accepter tout ça, ce qui se passe dans le monde du travail en général, c'est la même chose dans le monde du transport, sauf que dans le monde du transport, les patrons se cachent beaucoup moins, les choses sont plus évidentes quand on regarde le monde du transport et qu'on le connaît un peu, les choses sont plus évidentes, sont plus visibles, mais l'exploitation reste la même, de toute façon, pour preuve, des cas de personnes exploitées ou traitées de manière totalement indigne d'un être humain. On a énormément de luttes en cours à la CNT et on en a eu et pas que à la CNT d'ailleurs, et on voit les travailleurs en lutte qui subissent toujours des choses complètement inhumaines. Et malheureusement, 99% des flics sont syndiqués, 99% des patrons sont syndiqués à des organisations de patrons, et le pourcentage de salariés syndiqués, tous syndicats confondus, lui est extrêmement bas, alors que c'est les exploités qui ont le plus besoin de se défendre contre le patronat et qui auraient le plus besoin de rejoindre un syndicat. Et c'est ces mêmes exploités qui sont les moins nombreux justement à se regrouper et à entrer dans la lutte.
Ouais, mais bon, on comprend bien quoi, tout est fait pour décrédibiliser un syndicalisme qui fonctionne pas forcément très bien et au sein de l'entreprise, et du coup par effet de ricochet même c'est organisé plus ou moins dans la profession où on a des salariés qui se tapent la bourre quoi.
Oui, voilà.
Donc je comprends un peu. Est-ce que tu veux dire quelque chose, conclure sur quelque chose en particulier, parce que là l'émission va pas tarder à toucher à sa fin.
Conclure sur le fait que dans le transport, comme dans tous les autres corps de métier, tant que les travailleurs ne s'uniront pas tous ensemble pour renverser l'autorité et le patronat, ça signifiera qu'ils accepteront toujours leurs conditions actuelles et que le jour où est-ce que le travailleur n'arrivera plus à subvenir à ses besoins, peut-être qu'il c'est là qu'il regrettera de ne pas s'être organisé avant.
Et du coup, en fin de compte, ouais, ça sert à rien de se diviser ou d'accepter de se diviser, même si c'est juste la lutte des classes, c'est pas mal en fait. Non,
c'est
ça. Quoi,
oui, c'est ça.
Ça te va pour
les travailleurs.
Comme ce deux mots de la fin, ça vous va? Eh ben voilà. Je laisse Sylvain nous passer une musique que je ne connais pas. Et à la prochaine émission, le cinquième dimanche du mois. Quand il y en a un, du coup.
Voilà.
À bientôt. Merci de votre écoute.
Des bars pour des loulous qui pensent qu'à boire, pour des gonzesses qui ont des guiboles qui poussent un peu à la picole. Je traîne ma guitare là où ça joue de la musique, où il y a des fous de toutes les couleurs, tous les âges, qui disent qu'on meurt quand on est sage. Je traîne mes coups de gueule, mes mots qui se battent pour des couches tard dans des apparts où il y a de la bière, des petits gâteaux, puis de la monnaie dans un chapeau. Je traîne là où la vie m'emmène, je traîne. Je traîne mes refrains sur toutes les routes, dans des impasses, sur l'autoroute, de l'autre côté de la frontière, par temps d'orage ou par temps clair. Je traîne mes chansons au bout du monde, sur un caillou que la brume inonde, pour des marins qui ont le cœur plus grand que les les eaux froides de leur océan. Je traîne mes paroles dans des prisons pour des gros durs et leurs matons, pour scier un peu les barreaux de ces tôles rouillées comme des paquebots. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne. Pendant que tu dors au fond de ton lit, parce que quand s'allument les projos, la vie est plus belle de là-haut. Je traîne mes mélodies, mes accords, pour dire aux cons que je suis pas d'accord. Pour moi aussi, dans cette histoire, semer ma petite graine d'ananas. Je traîne mon blues à Bar-le-Duc, où c'est là que j'écris tous ces trucs qui m'emmèneront un peu partout, simplement pour être avec vous. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne. Du, 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 du. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne. Du, 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 du. Là où la vie m'emmène. Je traîne là où la vie m'emmène. Là où la vie m'emmène. Du, 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 du. La vie m'emmène, là où la vie m'emmène, près de chez moi.